Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Alors qu'il est bon de célébrer Dieu, qu'il est bon de glorifier. La joie de Dieu est notre force. Amen. Avant de commencer le message ce matin, je crois vraiment, le pasteur Bruno, moi-même, on a vraiment à cœur de mettre l'emphase, en tout cas ce week-end, sur la parole de Dieu, parce que Dieu veut parler à son église. Qui était là vendredi soir? Vous pouvez baisser la main. Qui n'était pas là vendredi soir? Oh, on vous pardonne. Ce que je vais faire, c'est qu'on a commencé à voir vendredi soir un message réellement important. Et je vais commencer par un récapitulatif, un résumé, et puis on va avoir la deuxième partie ce matin. Le message de vendredi soir, le thème, c'était le caractère du Fils pour libérer la puissance du Fils. On avait commencé à voir qu'il nous faut absolument avoir le caractère du Fils pour libérer la puissance du Fils. Et la question qu'on s'est posée ensemble vendredi, c'était: qui aimerait prier avec plus de puissance? Levez la main. Qui aimerait ici ce matin aimer, prier avec plus de puissance? Et vous êtes dans le bon lieu. Et on a commencé à voir cela vendredi dernier. Et on a commencé à tout simplement suivre l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples lorsque ses disciples sont venus le voir, parce que les disciples ont vu que la vie de puissance de Jésus était connectée à la vie de prière de Jésus. Les disciples ont vu que la vie de Jésus émanait, était le résultat, la conséquence de la vie de prière de Jésus. Alors ils sont venus le voir et lui ont dit: enseigne-nous à prier. Et comme vous le savez, Jésus a dit: quand vous priez, dites notre Père. Vous connaissez la suite de cette magnifique prière. Et on était resté sur ces deux mots, notre Père. Et on avait vu ensemble qu'il est important pour nous de réaliser ici et d'avoir la révélation que Jésus est en train de nous dire: quand vous priez, soyez toujours conscients que vous êtes des fils. Pas des mendiants, pas des esclaves, mais des fils qui disent notre Père. Et on avait vu ça ensemble, qu'il était important donc pour prier avec plus de puissance et d'autorité, de toujours réaliser que nous sommes des fils. Des fils que Dieu aime. Et on avait vu aussi que le Fils, Jésus-Christ, est l'image parfaite du Père, nous dit la parole de Dieu. Et que nous, les fils, nous sommes, par le Saint-Esprit, nous dit les Écritures, transformés de gloire en gloire à l'image du Père et du Fils. Donc, les fils que nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ, qui est le Fils. Et on avait vu ensemble que l'image, la caractéristique, la qualité principale qui représente Dieu le Père, c'est l'amour. Et on avait lu dans 1 Jean 4:8 ce verset où il est écrit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4:16 nous dit: et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dis après moi, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et donc on avait vu qu'une des caractéristiques du Fils, lorsqu'il a la révélation qu'il est réellement un fils du Père, c'est que ce Fils-là doit grandir dans l'amour. Et pour que nous puissions réellement nous-mêmes avoir la révélation, expérimenter que nous sommes des fils, eh bien, comme Jésus, il y aura des tests. Je peux vous dire, si ce n'est pas déjà le Saint-Esprit qui vient vous le révéler, ça restera que quelque chose d'intellectuel. Mais il y a plus que ça. Une fois que tu sais et que tu as la révélation du Père, que tu es le Fils, tu as un test à passer qui s'appelle le désert. Lorsque Jésus a été déclaré le Fils du Père, le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La Bible dit que le Saint-Esprit, on avait vu ça vendredi, l'a conduit dans le désert. Et dans le désert, on a vu que le diable a tenté Jésus. Et dans ces tentations où il a tenté, en fin de compte, le diable était en train de vérifier quelles étaient ses motivations de cœur en tant que fils. Et on avait vu que le diable testait si Jésus était là pour lui-même, si Jésus était là par ambition personnelle, ou si Jésus voulait se réfugier entre guillemets dans le Père parce qu'il avait peur du lendemain, ou peur de l'échec, ou peur de ce qui pouvait se passer. Et on avait vu ensemble que lorsqu'on prie, nos prières viennent de trois trônes. Le trône de l'amour, le trône de la peur et le trône de l'ambition égoïste ou de l'ambition personnelle, le moi. Et on avait vu ensemble vendredi que souvent nos prières en tant que fils n'ont pas beaucoup d'impact parce que nous, lorsque nous prions en étant motivés par la peur. Nous venons devant Dieu parce que nous avons peur du lendemain. Nous venons devant Dieu parce que nous avons peur de manquer. Nous venons devant Dieu parce que nous avons peur d'être rejetés. Nous venons devant Dieu parce que nous avons peur d'échouer. Nous venons devant Dieu parce que nous sommes motivés sans nous rendre compte par la peur. Et nos prières et nos requêtes ne sont pas assises dans le trône de l'amour, mais sont assises dans le trône de la peur. Où nous prions parce que nous sommes ambitieux et nous voulons réussir. Et Dieu veut que nous puissions réussir. Mais croyez-moi, plus que le succès, Dieu cherche la fidélité. Amen. Gloire à Dieu parce que Dieu veut nous donner la vie en abondance. Mais des fois, si tu es une personne normale, tu ne vis pas sur terre pour dire « je veux être un échec, je veux tout rater, je veux absolument faire des erreurs ». Non, ce n'est pas normal. Dieu veut qu'on réussisse. Mais lorsqu'on prie constamment et notre prière camoufle des ambitions personnelles, alors souvent on n'a pas la percée, alors souvent on n'a pas la victoire. Et on se demande pourquoi ça se passe comme ça. Et on avait vu ça ensemble vendredi soir. Et ce soir, ce matin plutôt, j'aimerais qu'on puisse poursuivre dans ce sens. On avait prié en demandant à Dieu de nous donner la révélation, que nous puissions toujours faire nos prières à partir du trône de l'amour. Parce qu'un fils est à l'image du Père et il grandit dans l'amour. Il ne prie pas parce qu'il a peur, car dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et bien sûr, c'est un processus, mais cela nous permet à chacun d'entre nous de réellement tester, de vérifier si, lorsque nous faisons monter une requête vers Dieu, si nos motivations sont assises sur le bon trône. Car nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Et Dieu est amour. Ça signifie que son trône n'est pas différent de lui. Amen. Mais j'aimerais ce matin que nous puissions réaliser ceci. En plus d'avoir la révélation que nous sommes des fils, pour avoir une prière, une vie de prière puissante, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Même si tu passes le désert et que tu as la ferme conviction que tu es un fils, tu as la révélation et tu es passé les tests de l'ambition personnelle, tu as passé le test de la peur, et à chaque fois, cela malgré tout ne suffit pas. Il manque un ingrédient important. Parce que lorsque je cherchais la face de Dieu, pour que nous puissions tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, avoir une vie de prière plus puissante, le Seigneur m'a rappelé un verset au sujet de Jésus-Christ qui est le Fils, extrêmement important pour nous tous. Il est écrit dans Hébreux 5, à partir du verset 7, ceci. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ici, ce verset signifie, même s'il était le Fils, il n'a pas été uniquement exaucé parce qu'il était le Fils. Il a été exaucé à cause de sa vie de piété exemplaire. Le mot piété signifie attaché à Dieu. À cause de son style de vie, à cause de sa vie de prière, parce qu'il reflétait dans sa vie son attachement à Dieu le Père, sa crainte de Dieu. Et c'est cette vie de piété-là qui a fait que même s'il était le Fils, il a été exaucé. Mais cette vie de piété de Jésus-Christ était exemplaire. Pourquoi ? Parce qu'il a appris l'obéissance. Donc pour que les fils que nous sommes, une fois qu'on a la révélation et qu'on expérimente après le test du désert, que nous sommes fils, il y a un élément important pour nous à apprendre, c'est que nous devons apprendre l'obéissance. C'est très important. Je sais que ce n'est pas un mot, c'est pas un mot qui est en vogue, ça, l'obéissance. Lorsqu'on parle d'obéissance, nos cœurs ont tout de suite tendance à faire « Iiii ». Tu n'apprends pas à un enfant à être rebelle. Il grandit tout seul dans la rébellion. Par contre, il faut apprendre à un enfant à être obéissant. Oui ou non? Et si Dieu lui-même a appris l'obéissance, pensez-vous que nous ne devons apprendre? Dieu le Fils, 100% Dieu et 100% homme, en tant qu'homme, a appris l'obéissance. C'est incroyable, c'est un des versets dans la parole de Dieu qui me scotche le plus, tellement il est profond et comment on a du mal à comprendre qu'il a dû apprendre l'obéissance. Mais c'est ce qu'on va voir. Combien de vous ici, parmi nous, combien réalisent que l'obéissance est une arme surpuissante? L'apôtre Paul dit qu'il a été fait apôtre pour amener les nations à l'obéissance de la foi. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, ce matin, l'obéissance de la foi. Mais on va voir quelque chose d'intéressant. On va voir que l'obéissance, en réalité, ce n'est pas juste une arme puissante. L'obéissance est composée d'une multitude d'armes. Et on va voir que les armes de l'obéissance sont donc multiples. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous devons apprendre à manier les armes de l'obéissance. Car l'obéissance est une arme offensive et défensive en même temps. Et si tu veux avoir une vie de prière à succès, si tu veux être un chrétien qui fly, qui vole, l'obéissance n'est pas une option dans le Seigneur. Mais nous devons renouveler notre perception de ce que c'est l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas juste « écoute ce que je te dis, fais ce que je te dis ». Ce n'est pas uniquement ça, c'est bien plus que ça. Nous devons donc apprendre à manier les armes de l'obéissance. Regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui, apprends, comme Jésus qui a appris, à manier les armes de l'obéissance. Dans le chapitre 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, il est écrit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissante par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons à notre disposition des armes surpuissantes pour renverser les forteresses. Trop de forteresses dans ta vie, trop de forteresses dans nos vies, dans ma vie, restent sur place parce que nous ne comprenons pas la puissance des armes qui sont à notre disposition. Et comme nous ne le savons pas, nous ne les utilisons pas ou nous les utilisons mal. Des armes spirituelles pour un combat spirituel. Je vous rappelle rapidement, dans Éphésiens 6, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Le combat, ce n'est pas contre la chair, contre le naturel. Le combat, nous dit la parole de Dieu, se déroule toujours dans l'esprit. Quand tu gagnes le combat dans l'esprit, alors c'est une question de temps pour que ça se manifeste dans le naturel. Amen. Éphésiens 2, verset 2 nous dit ceci. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Cela signifie qu'au moment là où nous sommes assis, vous et moi, il y a un monde invisible en ébullition. Il y a par exemple, pour prendre cette fois-ci des choses qu'on connaît, au moment où je vous parle, il y a des ondes radio qui traversent la salle. Il y a même des ondes télé. Si on place une télé ou on place une radio et qu'on la règle, ils sont capables de recevoir les ondes invisibles que nous, on ne voit pas. Nous, on n'est pas câblés pour recevoir les ondes de la télé. Je ne peux pas, par ma main, vous dire « Regardez RFO maintenant. » Il faut une télé pour ça. Par contre, on est câblés, vous et moi, pour recevoir les choses de l'esprit. Est-ce que vous êtes déjà arrivé lorsque vous passez dans un endroit, par exemple, et tout de suite vous sentez quelque chose de mauvais ou de bon? Ou, par exemple, vous allez dans un endroit et vos pensées sont attaquées, par exemple, de manière sexuelle. Et sans vous rendre compte, vous êtes en train de capter les ondes du prince de l'air. Et vous pensez peut-être parfois que c'est vous. Or, qu'il suffit de dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Parce qu'on a déjà vu ça, pas toutes nos pensées sont nos pensées, mais c'est un autre thème. Et c'est très important de comprendre ce principe que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre un monde spirituel en ébullition. Et ce verset d'Éphésiens 2 nous dit que Satan agit au travers des fils de la rébellion. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, s'il y a des fils de la rébellion, il y a aussi des fils de l'obéissance. Parce que si Satan émet des ondes dans le monde spirituel, émet des messages qu'on est capable de capter, Dieu lui aussi émet des messages qu'on est capable de capter. Et ça, c'est bon de le savoir. Et ça, c'est bon de se rappeler. Dieu émet aussi des messages qu'on est capable de capter par notre esprit. On est câblé pour cela. On a été créé pour cela. Câblé pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Avec l'intuition, avec l'esprit, on est capable de dire, tiens, il y a des choses bonnes qui se passent. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre ceci ce matin. L'obéissance se manifeste et s'exprime de plusieurs manières. Pourquoi ? Écoutez bien, bien, bien ceci. Car l'obéissance consiste à manifester les désirs du Saint-Esprit. Oh. L'obéissance consiste à manifester les désirs du Saint-Esprit. Et les désirs du Saint-Esprit sont multiples. Donc l'obéissance a de multiples facettes. Et ça, c'est important. Quand on parle des désirs du Saint-Esprit, on parle ici de la volonté de Dieu. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. » La volonté de Dieu, c'est les désirs du Saint-Esprit lorsque dans le monde spirituel, il vient semer ou parler à notre esprit pour que nous puissions être connectés à lui et dire ce qu'il dit et faire ce qu'il fait. Amen. Galates 5, verset 17 nous dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a des désirs de l'esprit. Il y a des désirs de la chair. Les désirs de l'esprit correspondent à la volonté de Dieu. L'obéissance est multiple parce que l'obéissance, c'est d'obéir et d'exprimer et de manifester les désirs du Saint-Esprit. Amen. Le problème, c'est qu'il y a un autre désir qui s'oppose au désir du Saint-Esprit. C'est les désirs de la chair qui nous animent tous, vous et moi. Ils sont opposés. Ça signifie qu'ils se font la guerre. Ils ne sont pas pareils, ces deux désirs. Et ensuite, dans Galates 5, lorsqu'on continue à lire la parole de Dieu, l'apôtre Paul, avant le fruit de l'esprit, l'apôtre Paul dresse la liste des désirs de la chair. Il y en a plein. Et ensuite, il parle du fruit de l'esprit, ici. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, de telles choses. Il dit que les désirs de la chair, c'est les querelles, les jalousies, l'envie, l'amertume, le non-pardon. Ça, c'est les désirs de la chair. Ensuite, il dit, attends, mais ça, c'est laisser l'esprit, le prince de la puissance de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion, laisser ça manifester. Il dit, mais non, mais vous, enfants de Dieu, nous pouvons aussi être câblés par le Saint-Esprit et recevoir les désirs du Saint-Esprit qui sont opposés à ceux de la chair. Et ce désir se manifeste de cette sorte. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté et la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce matin, c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent. Voilà le point central du message de ce matin. Vous savez, au cours de ma vie chrétienne, et je suppose que la plupart d'entre nous, on a pu constater et expérimentez ceci. Écoutez bien, bien, bien ceci. Le fruit de l'esprit est une arme ultime pour le combat spirituel. Le fruit de l'esprit n'est pas juste un fruit, c'est une arme de combat. C'est important pour toi de comprendre ça ce matin. Le fruit de l'esprit est une arme. Pourquoi ? Écoutez bien ceci. Lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit, nous manifestons les armes de l'obéissance. Parce que nous manifestons les désirs du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous manifestons la volonté de Dieu. Et lorsque nous prions, nous devons chercher sa volonté pour être assis sur le trône de l'amour de Dieu. Le fruit de l'esprit est donc une arme de combat hyper puissante, ultime. Vous allez mieux comprendre dans un instant. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pensé, de manière erronée, que le fruit de l'esprit, ça allait prendre du temps pour le manifester. J'ai pensé que le fruit de l'esprit était le résultat d'une sanctification qu'il fallait mettre en place de manière dure. C'est une erreur. Lorsque l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit dans Galates, les Galates à l'époque sont à l'ouest. Ils marchent selon la chair. Ils marchent selon la loi, ils font n'importe quoi. Et l'apôtre Paul leur dit dans Galates 5, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsqu'il dit marchez selon l'esprit, il dit maintenant. Il ne dit pas, priez beaucoup, sanctifiez-vous beaucoup, faites un tas de rituels et après que vous allez atteindre la sainteté suprême, vous allez pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Qui est le résultat de votre vie de piété. C'est pas ça. Il est en train de dire, les gars, il y a des désirs de la chair qui vous pourrissent la vie. Parce que l'ennemi, le prince de l'air, il émet des choses dans l'esprit, vous les recevez, vous les captez, et vous les manifestez, ça pourrit votre vie. Et ça vous fait souffrir. Donc l'apôtre Paul dit, je vous dis une chose, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est en train de dire, si tu manifestes le fruit de l'esprit, alors tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que la chair ne peut pas être plus fort que l'esprit. Souvent on dit, oui, la chair est forte. Déjà, parole de Dieu, Jésus dit la chair est faible. Jésus lui-même dit la chair est faible. Et nous souvent on dit la chair est forte tellement on a du mal. Mais je crois que, encore une fois, notre perception nous donne une direction. Si tu perçois que la chair est plus forte que l'esprit, ça va être la direction dans laquelle tu vas partir. Mais si tu perçois que l'esprit est plus fort que la chair, ça va être aussi la direction dans laquelle tu vas partir. Choisis ta bonne perception pour avoir la bonne direction. Car les œuvres de l'esprit sont plus fortes que les œuvres de la chair. En marchant donc par l'esprit, nous allons apprendre à manier les armes surpuissantes de l'obéissance. En marchant par l'esprit, on va apprendre à manier les armes de l'obéissance qui va renverser les forteresses dans nos vies et nous permettre de marcher dans la victoire. La victoire contre la haine, la victoire contre le non-pardon, la victoire contre la jalousie, la victoire contre l'amertume, la victoire contre les querelles, etc., etc., etc. C'est ce que Dieu veut pour nous. Avec une foi ferme, motivée par l'amour, nous répondons par une attitude et par des choix qui manifestent un esprit opposé à celui du monde. Parce que les choses de l'esprit sont opposées aux choses de la... Les choses de l'esprit sont opposées aux choses de la... Et c'est comme ça qu'on empuissance notre vie de piété. Parce qu'il y a des choses qui te font souffrir, toi et moi. Et la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ces choses sont les désirs de la chair. Comme quelqu'un peut-être dans ton travail qui a une promotion à ta place. Tu souffres. Tu dis pourtant j'ai été fidèle et c'est pas moi. Et peut-être que la jalousie frappe à ta porte. Et l'amertume frappe à ta porte. Il y a une tribulation qui se présente là. Il y a une souffrance. Mais le choix est devant toi. Tu as la possibilité de prier pendant des années, toujours te plaindre, et dire Seigneur, et la prière est enracinée sur le trône de l'ambition personnelle, ou de dire « Attends, je veux m'asseoir sur le trône de l'amour et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ce que je vais chercher d'abord, c'est à apprendre à manier les armes de l'obéissance, qui est le fruit de l'esprit. Cette arme-là manifeste les désirs du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit désire lorsque la jalousie vient frapper à ta porte? C'est que tu aies dit « Seigneur, tu sais quoi? Je vais m'humilier parce que l'humilité, c'est de voir les autres comme étant au-dessus de soi. » Et ceux et celles qui apprennent chaque jour, parce que ça c'est tous les jours, à faire ça, développent une vie de piété surpuissante et marchent dans la victoire. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie lorsque quelqu'un te maudit, bénis-le. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie lorsque quelqu'un te fait du mal, pardonne-le. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie lorsque tu es en plein milieu d'une peine, cherche la joie de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie lorsque quelqu'un souffre ou te fait souffrir, toi donne le réconfort. Agis toujours et constamment de manière opposée. Souvent, on fait des chants à l'église et le groupe nous dit, si Satan te dit oui, toi tu dis... Si Satan te dit oui, toi tu dis, c'est pour nous apprendre à agir de manière opposée aux désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, c'est faire la volonté du diable. Et ils sont opposés aux désirs de Dieu, qui sont les désirs de l'esprit. Donc c'est pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre, comme Jésus qui a appris l'obéissance, à constamment chercher à réagir comme Jésus réagirait. Donc, au lieu de réagir par rapport à une circonstance, nous devons apprendre à réagir par rapport à ce que le Saint-Esprit nous dit. Je suis d'accord que vous êtes en train de dire oui, mais ce n'est pas facile. Je vous rassure, c'est impossible. En général. Essayez pas de vous dire, quand Jésus dit « Bénis tes ennemis, aime tes ennemis », si quelqu'un me dit c'est dur, c'est pas dur, c'est pas facile. Tu as envie de fracasser la tête de ton ennemi. Tu n'as pas envie de le bénir. Mais si tu apprends à réagir de manière opposée, et lorsque tu vas dans la prière et tu dis attends, la volonté de Dieu, c'est de bénir mon ennemi. Ce que tu es en train de faire là, c'est que tu actives dans l'esprit une arme spirituelle explosive qui va dans la tête de l'ennemi, explosé. Et ça, c'est important. Et qui va en plus te libérer de la haine, de l'offense, du non-pardon. Et le non-pardon est une prison pour celui qui ne pardonne pas. Et donc, c'est important, c'est crucial pour nous de comprendre ça. On a déjà vu ça ensemble. La Bible le dit, l'apôtre Paul dit souvent, il est en prison. Et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul savait se réjouir, même dans les moments difficiles. Un jour, lorsque lui et Silas sont dans un lieu pour annoncer la bonne nouvelle, ils sont battus à coups de fouet, jetés en prison, enchaînés des pieds. Leur dos saigne, dans Actes 17, je crois, 16. Leur dos saigne. À minuit, la Bible dit que l'apôtre Paul et Silas ont commencé à adorer, à adorer. Ça, c'est une attitude opposée. Le problème, c'est souvent en tant que chrétien, nous ne réagissons pas avec une attitude opposée au désir de la chair, et après, on est toujours dominé par la chair. Et on ne comprend pas qu'il nous faut activer l'obéissance de la foi. Parce qu'il faut que cette foi-là, qui a confiance en Dieu, agisse par l'amour. Et par l'amour, on dit non, je t'aime Seigneur, je veux agir comme toi. Et je crois que même s'ils me font du mal, toi tu me fais du bien. Et quand tu agis de manière opposée comme Paul et Silas, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie son ange et la prison est ébranlée, les chaînes se brisent. Et ils sont tout de suite délivrés. Et je vous garantis, beaucoup parmi nous sortiraient de leur prison qui date pour certains depuis des années s'ils apprendraient aujourd'hui à réagir de manière opposée. Quand la parole de Dieu dit ceci, quand la parole de Dieu dit « Réjouissez-vous », On a déjà vu cela. Je vous ai dit une fois, le monde se réjouit pour avoir la joie, mais nous, le peuple de Dieu, nous avons la joie, c'est pour ça que nous nous réjouissons. Parce que la joie de Dieu est notre force. Mais quand l'apôtre Paul dit aux gens qui sont en train de se quereller, réjouissez-vous, il est en train de dire, si vous voulez arrêter cette querelle et cette dispute, faites ressortir la joie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans Philippiens 4? Il est en train de dire, apprenez à réagir de manière opposée pour briser les désirs de la chair. Et ainsi vous marcherez selon l'esprit, et quand tu marches selon l'esprit, tu lâches dans le monde spirituel, tu actives une bombe, une arme surpuissante qui est l'obéissance. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que Jésus dit dans les Béatitudes, heureux serez-vous lorsque vous serez maltraités. Et nous, on a du mal dans notre mentalité d'occidentaux à comprendre ça. Je comprends que ce n'est pas facile. Mais frères et sœurs, on est tous logés à la même enseigne. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que c'est plus facile pour nous. C'est pour tout le monde pareil. Quand il y a les attaques, quand il y a les critiques, quand on se fiche de toi parce que tu es pasteur, juste ça, ça fait rire parfois. Et les gens t'humilient. C'est pas forcément facile. Tu fais pas, c'est bon, hein, ils me traitent comme un sirop. Ton cœur commence à réagir et dit, tu n'es pas pasteur, je te mets deux tapins dans ta tête. Avec amour, bien sûr. Tu commences à réagir, mais tu dis, non, il faut pas que je laisse la chair prendre le dessus. Et que je demande à Dieu, aide-moi à aimer quand même. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce que Jésus a dit. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est le modèle par excellence de celui qui a toujours agi en opposition aux circonstances. Toujours. Lorsqu'on l'a fouetté, lorsqu'on l'a crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les circonstances n'avaient pas d'emprise sur lui. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour réagir pareil. Parce que nous avons le fruit de l'Esprit en nous, qui consiste en la justice, la paix, la joie, etc. C'est ce que Dieu veut. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Et c'est ça, notre combat. C'est combattre pour que le fruit de l'Esprit fasse taire les désirs de la chair. Ça s'appelle le combat de l'amour. C'est ça être assis aussi sur le trône de l'amour. Nous combattons avec l'amour parce que nous répondons aux standards du Fils. Nous voulons manifester les standards du royaume de Dieu. Nous voulons manifester les standards d'une autre réalité qui s'appelle le royaume des cieux et non pas les standards de ce monde. Du coup, nous réagissons différemment des gens du monde. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais celui ou celle qui s'attache à le faire, il libère une bombe dans l'esprit. Lorsqu'il y a des querelles dans un couple et qu'il y en a un qui dit, tu vois, je réagis mal parce que ma femme me prend la tête. Elle réagit mal, donc je réagis mal. Mais je prie Dieu qu'elle change. Mais ça fait 30 ans que je prie. Parce qu'on n'a pas compris que la prière était enracinée dans le fauteuil du moi. Elle n'est pas enracinée dans le fauteuil de l'amour. Donc elle manque d'autorité. Parce que Dieu veut nous apprendre à réagir de manière opposée. Et à dire, oh, même si elle me prend la tête et qu'elle ne fait pas les choses que je l'encourage à faire, moi, par amour pour Dieu et par amour pour elle, je vais apprendre à réagir de manière opposée. Parce que je sais que si je manifeste les fruits de l'esprit, alors je vais briser les œuvres de la chair. Et les querelles vont cesser. Et les disputes vont cesser. Parce que le fruit de l'esprit, lorsque tu manifestes les désirs de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, l'aimabilité. Il ne suffit pas de venir à l'église et de prier. Il ne suffit pas de venir à l'église et d'écouter un bon message en disant « Bon pasteur, super, hein, ah, ce message-là m'a parlé. » Non, il faut pratiquer. Chacun pour sa propre vie. Parce qu'il est écrit « Chacun d'entre nous nous allons rendre des comptes à Dieu pour nous-mêmes. Pas pour ton épouse uniquement. Même si tu as marié, si tu rends pour ta famille. Mais en plus, après, elle va rendre pour elle-même. Et toi, tu vas rendre pour toi-même. Donc nous devons choisir, par la foi, par l'obéissance de la foi, d'activer le Saint-Esprit qui est en nous par amour. L'amour n'échoue jamais. Si nous demeurons dans l'amour, nous gagnons toujours. Parce que Dieu est un juste juge. Toujours. Toujours. Je vais redire parce que tu n'as pas compris. Lorsque nous réagissons dans l'amour, nous gagnons toujours. Toujours. C'est ce que Dieu veut. Le fruit de l'esprit, c'est quoi donc ? C'est donc l'obéissance au désir de l'esprit qui correspond à la volonté de Dieu. Et en obéissant au désir de l'esprit, on va libérer la puissance de l'amour dans des situations qui sont opposées. Bénissez vos ennemis. Quand Jésus dit ça, ce n'est pas pour faire joli. Il est en train de dire, voici le remède qui va protéger ton âme. Il est en train de te dire, voici le vaccin qui va te protéger du virus qu'est la haine. Voici le vaccin qui va te protéger du virus qu'est l'amertume, qui cherche à te détruire toi et ton âme. Ce n'est pas juste une bonne formule. Oh, il aime. Non, ce n'est pas juste ça. C'est bien plus que ça. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Le fruit de l'esprit, c'est une arme. Le fruit de l'esprit, c'est ceci, par exemple. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, c'est vrai. Mais Dieu sait que c'est la joie. En réalité, le fruit de l'esprit, c'est manifester plusieurs facettes de l'amour de Dieu en obéissant par la foi. Parce qu'on veut réagir à l'inverse, en étant opposé à ce que les circonstances nous font. Donc la joie, c'est l'amour qui s'amuse. Donc la paix, c'est l'amour qui se repose. Donc la patience, c'est l'amour qui endure. Donc l'aimabilité, c'est l'amour qui respecte. Donc la bonté, c'est l'amour en action. Donc la fidélité, c'est l'amour éprouvé. Donc la douceur, c'est l'amour qui s'exprime. Donc la maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous dire ce matin, mais à ceux et celles qui auront des oreilles pour entendre, je vous garantis que celui ou celle qui va s'appliquer à toujours chercher à essayer de réagir de manière opposée, va expérimenter une grande délivrance dans sa vie. Parce que Dieu est un juste juge. Et c'est un Père qui nous aime. Celui et celle qui va se dire, attends, moi, j'ai trop de haine dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, il m'a volé, il m'a dupé, il m'a trahi. Mais comme Jésus, tu as le choix. Il ne suffit pas de venir à l'église ou de prier. Comme l'apôtre Paul dit, hey, réjouis-toi, la joie est en toi. Certains d'entre vous disent, oui, mais comment faire? On va voir pour conclure comment faire. Mais j'aimerais juste vous rappeler les paroles de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 3, 13, il dit ceci. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Cela signifie, écoutez bien ceci, quand l'apôtre Pierre dit « Mais qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Cela signifie « Que peut te faire le mal si tu es zélé à aimer ?» Si tu es zélé à aimer, le mal qu'on te fait ne rentrera pas. Ou s'il rentre, tu seras rapide et prompt pour l'expulser. Et c'est le cœur de Dieu pour son peuple. Il ne suffit pas uniquement de marcher dans la puissance. Le thème, la suite de ce qu'on a vu vendredi soir, c'est ceci. Le caractère du Fils pour libérer la puissance du Fils. quand tu marches dans le fruit de l'esprit qui est accessible maintenant, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça signifie marche dans l'obéissance aux désirs du Saint-Esprit et tu vas voir que les désirs du Saint-Esprit vont toujours manifester une facette de l'amour. Et cet amour qui est libéré dans le naturel et en même temps dans le spirituel par ton action, par ta volonté, parce que tu veux correspondre et faire ma volonté, cet amour-là est une arme de destruction ultime pour détruire les attaques de l'ennemi dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions comprendre. Est-ce que tu réalises bien ce verset ? Qui ? Dites-le, on va le lire ensemble. Dites « et ». Et qui ? Dites-moi. Me. Et qui me maltraitera si je suis zélé pour le bien. Si je suis zélé pour le bien, même mon meilleur ami qui me trahit, j'ai trouvé la force de le pardonner. Si je suis zélé pour le bien, même ton époux ou ton épouse qui t'a quitté, tu es capable de le pardonner. Si tu es zélé pour le bien, même ton patron qui te maltraite, tu es capable de le pardonner. Parce que ton objectif est d'être zélé pour le bien. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc encore une fois, pour conclure, est-ce que cela est difficile à faire ? Non, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à... Et Dieu vit où ? Aha ! Car rien n'est impossible pour celui qui ? Pour celui qui ? Pour celui qui ? L'obéissance de la foi et la foi agissant par l'amour va libérer la puissance de Dieu dans l'esprit. Et ça, c'est une arme ultime de combat pour renverser les forteresses, renverser les faux raisonnements. Peut-être que je ne comprends pas, mais oui, je crois. Je suis un fils. J'ai la révélation que je suis un fils. Et je veux prier la volonté du Père, être enraciné sur le trône de l'amour. Je fais attention à mes ambitions personnelles. Je fais attention à ne pas prier par la peur. Je veux aimer pour dégager dans l'atmosphère, dans l'esprit, la puissance de Dieu. Et je veux donc apprendre à prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et sa volonté, c'est souvent de réagir de manière opposée au désir de la chair, aux standards de ce monde. Mais comment faire ? Il faut devenir un avec celui qui est un. Comme Jésus a prié dans Jean 17. Père, je te prie pour qu'ils soient un. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus dit, je prie pour ceux qui vont croire, pas uniquement les 12 à l'époque, pas uniquement ceux qui l'entouraient à l'époque, je prie pour ceux qui vont croire en la parole au loin. Pourquoi ? Afin qu'ils soient un. Pour que nous devenions un avec celui qui est un. Et comment devenir un avec celui qui est un ? Par la prière. La prière est le lieu de transformation et d'échange. Pour que la prière est le lieu où tu déposes l'impossible et tu prends le possible. La prière est le lieu où tu te renouvelles. On voit en ce moment, en deuxième année, avec le pasteur Bruno, un thème surpuissant qui s'appelle le secret du lieu secret. Mais un des secrets du lieu secret, qui est bien sûr le lieu de la prière, c'est que ce lieu-là te transforme à l'image du Fils. Ce lieu-là te permet d'être en union avec le Père. Lorsque tu n'arrives pas parce que c'est trop dur de pardonner, cherche Jésus. Va dans sa présence. Parce que c'est de cette unité avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit que ton identité va se révéler. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Comprends bien qu'une tribulation, une souffrance est une porte. La tribulation est une porte pour faire entrer le royaume de Dieu ou les désirs de la chair, lequel tu veux. Lequel tu veux qui rentre en toi. Lequel tu veux qui se manifeste au travers de toi. Nous avons le choix. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu as la révélation que Jésus t'aime et que tu es assis sur le trône de l'amour, fais une prière qui vient de ce siège-là. Scrute pour voir si ce n'est pas des ambitions personnelles ou motivées par la peur. Ne sois pas offensé, refuse d'être offensé par la volonté de Dieu si elle te paraît offensante. Cherche à agir de manière opposée. Si tu n'as pas la force, va lui demander. Parce qu'il est écrit en Jésus-Christ que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Personne ici n'est meilleur qu'un autre. Face aux désirs de la chair, aux attaques de l'ennemi, par nos propres efforts, nous sommes tous faibles. Mais nous avons tous la possibilité de rentrer dans le lieu secret pour être transformés à son image. Être en union. Quand Jésus dit « Père, je prie pour que tous soient un », il est en train de nous dire « Comprenez que la prière te fait devenir un ». Avec nous qui sommes un. Et quand tu deviens un avec celui qui est un, tu comprends que s'il y a une tribulation, s'il y a une offense, s'il y a de la jalousie, s'il y a de l'ambition personnelle, s'il y a de la haine, tu commences à focaliser tes regards comme le Père, à changer ta perception, à dire ce gars-là, il m'a volé, ce gars-là que j'aimais, il m'a trahi, ou cette femme-là. Et franchement, Père, regarde mon cœur, comment il est meurtri, moi je suis faible. Mais je sais que tu veux que je puisse réagir de manière opposée. Je souffre dans cette prison du non-pardon qui me fait mal et qui met l'amertume dans mon cœur. Mais ce matin, je choisis, comme Paul et Silas, de dire que je veux te louer. Je veux commencer à te glorifier parce que Jésus, c'est ce que tu as fait et tu es l'image parfaite du Père. Toi, on t'a fouetté et tu as pardonné. On t'a craché dessus et humilié et tu as pardonné. Oh Seigneur, je suis faible, mais ta parole dit que le faible en toi dise « Je suis fort. » C'est possible. Et là, ta prière commence à shifter. Ta perception commence à shifter. Tu commences à dire « Oh, non pas ma volonté, mais ta volonté. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à bénir mes ennemis. » Et tu commences avec une action à te repentir, à changer autrement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à manifester le fruit de l'esprit, l'amour en action, qui est la bonté. Tu commences à répondre avec douceur à celui qui réellement te crie dessus. Et la douceur manifeste la puissance de Dieu. Parce que tu as compris et tu apprends à manier les armes de l'obéissance, les armes défensives et offensives de l'obéissance. C'est ce que Dieu veut.